Il est 7h41, l'invité des matins, c'est Eric Heyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez publié chez Flammarion, avec Dominique Méda et Pascal Lokiek, Une autre voie est possible, le modèle social n'est pas mort. Alors ce vendredi 1er novembre entre en vigueur une partie des nouvelles règles de l'assurance chômage, autrement dit les règles qui permettent lorsqu'on est sans emploi d'être indemnisé. Les conditions d'accès à l'indemnisation sont durcies, mais elles le sont dans une conjoncture qui paraît favorable à l'emploi. C'est ce dont nous allons parler ensemble jusqu'à 8h et puis nous serons ensuite rejoints après le journal de 8h par Alain Mestre pour évoquer l'évolution de l'emploi et des métiers dans ce moment de grande transition, transition écologique, transition énergétique. Je voudrais commencer par cette citation de Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, c'était hier au Figaro, à propos de cette réforme de l'assurance chômage. Il dit que c'est une des réformes les plus dures socialement qui s'est opérée ces 25 dernières années. Quelle serait, vous, votre appréciation globale de la réforme ?
Alors je pense qu'il faut la mettre dans effectivement une globalité de toutes les réformes qui sont menées depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. En fait, on va dire qu'effectivement il y a cette notion de flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'il essaye de flexibiliser d'abord le marché du travail avec les ordonnances sur le marché du travail, et il avait promis un volant de sécurité. Et parmi le volant de sécurité, c'était d'autoriser en fait d'avoir une assurance chômage pour tout le monde. Et donc effectivement, avoir une assurance chômage pour tout le monde, c'était avantageux. Alors il tient en partie sa promesse avec les indépendants, avec les démissionnaires, mais on voit bien que globalement, il a une troisième contrainte qui est venue se greffer, c'était de réduire les dépenses publiques et d'essayer de réduire les déficits. Et donc c'est très compliqué de sécuriser et d'ouvrir l'assurance chômage à tout le monde en réduisant quelque part les dépenses publiques. Il faut dire que la réforme de l'assurance chômage a quand même pour principal objectif une réduction des dépenses publiques à peu près de 1 milliard à 1 milliard 3 par an, 3 milliards et demi c'est la fin du quinquennat. Et donc, mais effectivement, pour certains chômeurs et des chômeurs qui sont plutôt issus du salariat, les droits vont être beaucoup plus compliqués. Et on voit qu'il a essayé d'être relativement équilibré entre les hauts avec les cadres et les un peu plus précaires, mais que globalement, ça a touché un peu plus les précaires. Le gouvernement affirme à peu près à 2,8 milliards le coût d'ici la fin du quinquennat pour les plus précaires et 700 millions pour les cadres.
Alors on verra justement si ces considérations budgétaires, au moins avec cette réforme, peuvent être atteintes et si elles sont, de votre point de vue, justifiées. Mais puisque vous évoquiez le cas des démissionnaires et des indépendants et que, comme dans toute réforme en général, il y a des perdants, il y a des gagnants, c'est plus ou moins équilibré. Parlons peut-être d'abord justement des gagnants. Ça change quoi pour les indépendants et ça change quoi pour les salariés démissionnaires ? Ils ont accès désormais à des indemnisations ?
Alors, pour les démissionnaires, ça va tout de même être un parcours du combattant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique derrière ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une assurance chômage. Donc, normalement, une assurance, vous ne l'avez pas quand c'est vous qui provoquez l'accident. Et donc, on ne peut pas... C'était compliqué de dire tous les démissionnaires. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis, finalement, je démissionne et je touche mon assurance. Donc là, il faut certaines conditions. Et les conditions, on ne les connaît pas bien. On connaît le parcours, on ne connaît pas exactement les conditions, puisqu'il va falloir passer devant une commission, et cette commission va essayer d'évaluer si votre dossier, ou en tout cas si votre projet de reconversion et de création d'entreprise, parce que ça va être tout de même ça l'objectif, est suffisamment solide pour vous autoriser à avoir une indemnisation.
Et puis il faut avoir travaillé 5 ans.
Il faut avoir au moins travaillé 5 ans. Donc on peut considérer que ça va tout de même dans le bon sens. Ça, c'est plutôt intéressant de l'ouvrir aux démissionnaires et que ça soit relativement contrôlé, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit juste je décide, moi, pour une raison X ou Y. Non, il faut un peu le contrôler. On verra, alors pour le coup, parce qu'effectivement, ça peut être intéressant de se dire que, y compris pour l'assurance chômage, ça peut coûter rien du tout, parce que on peut considérer que lorsque vous démissionnez, votre entreprise a une grande chance de vous remplacer. Et donc, du coup, ça peut faire une place pour un chômeur. Et vous, si vous avez un bon dossier, vous allez créer votre entreprise, ça risque d'être solide. Et donc, pourquoi pas, pour l'activité, ça peut être relativement intéressant. Et donc, du coup, globalement, pour l'assurance chômage, ça peut être bon. Pour les indépendants.
Alors, les indépendants, oui, Eric Heyer, ça, c'est quand même le gros morceau. C'était une revendication qui était quand même assez ancienne. Hein, oui. Et sachant que c'est aussi un domaine qui a vocation à être de plus en plus important. C'est-à-dire le travail indépendant se développe.
Il se développe. Alors, il faut tout de même être extrêmement prudent. Il se développe très, 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 très lentement. C'est quand même le salariat qui est la base. Et on nous prévient sur la fin du salariat. En fait, on ne la voit pas arriver. Donc, oui, avec les auto-entrepreneurs, il y a eu un tout petit peu plus d'indépendants et on le voit en France avec les auto-entrepreneurs, parce que partout dans le monde, on ne voit pas cette montée des indépendants. Et les auto-entrepreneurs, c'est quand même pour une grande partie un complément pour des salariés. Il y a beaucoup de salariés qui sont aussi auto-entrepreneurs. Donc attention à cette montée de l'indépendance, même si on imagine la fin du salariat, en tout cas, on ne le voit pas dans les chiffres. Et donc oui, pour eux, il y a une ouverture. Alors attention, c'est une assurance. Alors là, on relève d'un autre système, c'est-à-dire que ce n'est pas du système bismarckien, c'est-à-dire je cotise, et donc plus je cotise, plus mes droits sont importants dans la durée et dans le montant. Là, c'est un peu plus beveridgien, c'est-à-dire que c'est un impôt et du coup c'est un forfait, c'est-à-dire que vous avez droit à 800 euros où il va falloir payer des impôts sur ces 800 euros. Donc attention, on a envie de dire c'est un peu un minimum ou un minima social pour les indépendants.
Quand vous dites attention, est-ce qu'il faut aussi entendre dans votre bouche, Eric Heyer, attention, c'est peut-être une façon de modifier le modèle social français.
Moi, je pense que ce qu'avait le candidat Macron en tête, c'était vraiment de passer à ce modèle beveridgien. C'est-à-dire, globalement, on sort des cotisations. C'est-à-dire que tout le monde a accès à l'assurance chômage. Puisque ça devient un bien universel, c'est l'impôt qui le finance et plus les cotisations, pas seulement les seuls salariés. Et d'ailleurs, notez qu'une des premières mesures prises par ce gouvernement-là, c'était de transformer la cotisation chômage, on les enlève, salariés, et on les transforme en CSG et donc en impôts. Donc on va vers quand même cette idée, moins de cotisations, mais plus d'impôts, et donc pour financer des biens qui sont universels. L'assurance chômage, petit à petit, va peut-être être nationalisée quelque part, ce qui fait un peu craindre aux partenaires sociaux un rétrécissement de leur action. Et donc effectivement, c'est une logique très scandinave. Il faut rappeler que c'est les économistes qui chuchotaient à l'oreille de Macron étaient des pro-scandinaves.
À la logique scandinave dont on voit qu'elle est aussi à l'œuvre dans l'élaboration de la future réforme des retraites. Alors on a parlé donc de ceux qui sont relativement gagnants, disons, les démissionnaires, les indépendants. Parlons de tous les autres. C'est une réforme qui consiste à durcir les conditions d'accès. Ça c'est totalement assumé d'ailleurs par le gouvernement, Eric Heyer. Jusqu'à présent, il fallait avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers mois pour avoir droit aux indemnisations chômage. Désormais, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Et par ailleurs, j'ajoute un autre élément, ce qui est celui du rechargement des droits. Le délai passe de 1 mois à 6 mois. Ça va se traduire par quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'évaluer le nombre de personnes qui sortiront peut-être du système d'indemnisation ? Suite à cette réforme.
Alors, c'est très compliqué de le faire. L'UNEDIC a tenté de le faire. Mais vous voyez que le problème de cette mesure, donc l'UNEDIC évalue à peu près entre 700 000 jusqu'à 1,2 million. Ce qui est compliqué, c'est est-ce que ça a changé les comportements ? Et donc, le gouvernement y croit. Pardon. Le gouvernement est persuadé qu'une partie des chômeurs utilise ces droits et consomme l'intégralité de leurs droits. C'est dès qu'ils ont des droits, ils s'arrêtent de travailler, ils vont au chômage et puis ils rechargent progressivement. Et donc le fait de durcir un tout petit peu, ça va les inciter à rester plus longtemps sur le marché du travail. Alors donc notons que si on s'amuse à un petit calcul sur 2 ans et que la mentalité des chômeurs est celle-ci, ça va rien changer. Puisque avant vous aviez tous les 4 mois vous faisiez un aller-retour. Donc vous voyez sur 2 ans, vous aviez passé 3 fois 4 mois dans l'emploi, donc 12 mois dans l'emploi, 12 mois au chômage. Maintenant ça va être 6 mois, sur 2 ans ça va faire encore 1 an au chômage, 1 an dans l'emploi. Donc ça peut ne rien faire. Vous voyez, si vous prenez une durée de 2 ans. Mais globalement, moi, il me semble que là-dessus, c'est plutôt les précaires qui vont être difficiles. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que certains n'arrivent pas à avoir 6 mois au cours des 24 mois. Et donc, ces personnes-là qui n'arrivent pas à l'avoir, c'est elles qui vont être complètement pénalisé. Donc là, c'est les plus fragiles que l'on va pénaliser. Ça ne va pas forcément faire baisser les chiffres du chômage.
Alors c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça va avoir un effet sur les statistiques du chômage ?
Non, parce que vous voyez...
Quand on sort du système d'indemnisation, on ne sort pas des statistiques ?
Non, il faut juste avoir en tête que les statistiques que l'on commente tous les mois, maintenant tous les trimestres, etc., dans ces statistiques du chômage, la moitié sont indemnisées. Uniquement la moitié. Et on ne dit pas tous les mois ou tous les trimestres le nombre nombre de chômeurs indemnisés, on commente le nombre de chômeurs. Et pour être chômeur, il faut avoir ne pas du tout avoir travaillé au cours de la semaine de référence, être immédiatement disponible et être en recherche d'emploi, enfin, et faire des recherches actives. Pas est-ce que vous êtes indemnisé ou pas. Donc attention, sur les chiffres du chômage en tant que tel, non. Ça peut avoir des petites répercussions sur le découragement au chômage. C'est qu'effectivement, on peut penser que plus longtemps vous restez au chômage et surtout si vous n'êtes pas indemnisé, bah vous vous découragez, donc vous ne faites plus de recherche active et donc là vous sortez. Mais c'est une sortie qui est une mauvaise sortie du chômage.
Voilà, sachant qu'il y a aussi l'argument inverse qui peut être opposé, considérant que le système d'assurance chômage aujourd'hui est peut-être un peu trop généreux et qu'il découragerait le retour à l'emploi. Avant de vous faire réagir à cet argument-là, je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est économiste lui aussi, c'est Bertrand Martineau. Il est membre de l'Institut Montaigne, il a travaillé il y a quelques années à la direction de l'emploi, je crois que c'était à l'époque de Jean-Louis Borloo. Il était l'invité de France Culture dans l'émission Du Grain à Moudre, c'était en février dernier.
Alors, si on rentre dans le détail du système d'indemnisation du chômage, il y a à la fois du côté des chômeurs, mais aussi du côté des entreprises qui usent et abusent de ce système, qui entre deux CDD finalement permettent à prendre des vacances à la personne et ensuite réembauchent la personne après le CDD, après quelques semaines de chômage. Donc un certain nombre d'entreprises se payent sur l'UNEDIC des comportements qui contribuent finalement au chômage. Plutôt que de garder la personne quelques semaines de plus, elle l'envoie au chômage pendant quelques semaines, payée par la collectivité, donc par l'UNEDIC. Donc ce sont des comportements répréhensibles et il y a des chômeurs effectivement qui abusent. C'est une minorité, mais il y a des abus effectivement, et le système de rechargement des droits automatiques, plus de cumul entre l'allocation et le chômage, plus les conditions d'éligibilité particulièrement favorables en France, génère des situations où effectivement le chômeur est plutôt incité à rester sur des situations de contrat court, de démissionner facilement, et donc oui, ça contribue, le système d'assurance chômage français contribue au niveau de chômage structurel français, c'est assez évident.
Qu'en pense le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Éric Heyer?
Je pense que c'est pas aussi évident que ce que le dit Bertrand Martineau. Alors, il est possible effectivement qu'il y ait des abus, mais vous voyez que là, c'est plus la taxation des contrats courts qui est en... Et effectivement, ça, c'est une bonne chose qu'on taxe les contrats courts, parce que ce que dit Bertrand Martineau, c'est que ça coûte cher ces allers-retours. Et il a raison de dire qu'effectivement, le fait de passer d'un CDD au chômage, c'est ça qui coûte cher à l'assurance chômage.
Sauf que certains employeurs vont vous dire que les contrats courts, c'est aussi une façon d'entrer dans l'emploi, et que si on les taxe, ça sera plus compliqué.
Ah oui, mais d'accord. Donc, du coup, il ne faut pas interdire les contrats courts. C'est bon pour l'économie, effectivement. Sauf plus que ça coûte cher à l'assurance chômage. On doit se poser la question, qui doit les financer? Qui doit financer ce coût? Est-ce qu'on va demander aux chômeurs, comme on est en train de le faire, de réduire leurs droits pour pouvoir financer cette mesure-là? Est-ce qu'on va demander à toutes les entreprises de le financer en augmentant leurs cotisations? Ou est-ce qu'on dit, on fait un peu du pollueur-payeur? C'est-à-dire, ceux qui utilisent plus ce type de contrat être payés un peu plus que ceux qui n'utilisent pas. Et donc, ça, c'est une autre mesure de cette réforme qui est une bonne mesure, qui est la taxation des contrats courts, qui va arriver un peu plus tard dans le quinquennat, mais qui est de dire, on regarde le comportement moyen, donc c'est-à-dire que si vous êtes dans un comportement moyen d'utilisation des contrats courts, vous n'allez pas du tout être pénalisé. Donc là, on est bien dans cette logique, il faut des contrats courts, mais c'est si vous abusez de ces contrats courts, c'est-à-dire que si vous avez une utilisation supérieure à la moyenne, alors vous allez payer un peu plus cher un point de cotisation, et si vous avez une façon d'utiliser ces contrats courts moindre que les autres, vous allez gagner à cette réforme. Et donc ça, c'est une très bonne réforme. Le problème de la mesure du gouvernement, c'est que vous la limitez à 7 secteurs. Ça, c'est très curieux de se dire, pourquoi 7 secteurs? Pourquoi pas tout? Et vous voyez que 7 secteurs, on va toucher que un tiers des contrats courts. Non, ça serait l'intégralité de ces contrats courts. Donc, pour lutter à cette permittance, là, Bertrand Martineau a raison de dire qu'il faut lutter, il fallait mettre une taxation des contrats courts sur tous les secteurs. On s'est arrêté au 7e secteur, parce que le 8e, c'était le bâtiment, et on ne voulait pas sans doute ennuyer le bâtiment, pour question de lobby, et donc on s'est arrêté au tiers du chemin, ce qui est vraiment dommage.
Il y a une autre modalité, Éric Heyer, de la réforme de l'assurance chômage qu'on n'a pas évoquée. Il faut dire qu'elle rentrera en vigueur le 1er avril prochain, c'est le changement du mode de calcul de l'indemnité journalière. Ça va se traduire par une baisse ou par une hausse des indemnités, ça?
Alors, c'est un peu compliqué, mais dit autrement, ça, en termes de droit sur la période, ça vous enlève rien. Sauf que au lieu d'en avoir beaucoup au début, mais moins longtemps, vous allez en avoir un peu moins au début, mais pendant une période un peu plus longue. C'est-à-dire que globalement, le fait d'avoir un salaire de référence journalier, ça pouvait engendrer un comportement un peu bizarroïde où vous aviez intérêt en fait à travailler de façon très concentrée et donc du coup de toucher plus en étant au chômage que dans l'emploi. Donc ça durait pas longtemps. Les personnes qui bénéficiaient de ça, ils touchaient aux alentours de 1 300 €, donc on peut pas non plus considérer que c'était des ultra privilégiés, mais effectivement, ça pouvait être curieux de se dire qu'on pouvait gagner plus au chômage que dans l'emploi. Mais attention, en gros, globalement, ça veut dire qu'on va juste baisser l'indemnisation mensuelle, mais vous allez avoir des droits plus longtemps. Bon, je pense que ça, c'est plutôt une bonne réforme. Il va falloir faire attention aux modalités, mais ça va plutôt dans le bon sens. Et donc là, on peut dire bravo.
Vous écoutez, Eric Heyer, on a l'impression que cette réforme, elle a été pensée autant par des économistes que par des sociologues du comportement.
Ah, non, mais de toute manière, il faut avoir en tête les comportements. C'est-à-dire que, ou alors votre question aurait dû dire entre des comptables et des personnes qui regardent le comportement, alors que ce soit des sociologues ou des économistes. L'économiste, normalement, doit se dire que sa mesure ou des mesures que l'on propose va devoir changer les comportements. Ça, par contre, c'est très compliqué d'essayer de comprendre le comportement des agents et savoir quel changement de comportement va être induit par des mesures spécifiques. Là, effectivement, c'est important de se dire qu'on est dans un moment avec un rapport de force et donc une mesure, on regarde du côté du chômeur, mais il faut regarder aussi du côté de l'entreprise. Il peut y avoir une sorte de collusion entre les deux. Et effectivement, quand les deux ont intérêt à avoir des contrats courts, il y a plus de chances qu'il y ait beaucoup de contrats courts en France, qui est le cas. Une petite statistique, c'est-à-dire qu'il y a 26 millions de contrats qui sont signés chaque année en France. Sur ces 26 millions de contrats qui sont signés chaque année en France, les deux tiers, donc c'est énorme, sont des contrats de moins de un mois. C'était 45% en 2000. Donc on voit qu'il y a une explosion de ces contrats courts. Et on voit que les contrats courts, avec un contrat court, c'est très difficile d'accéder au crédit bancaire. C'est très difficile d'accéder au logement. Et donc sans un logement de qualité, il est très difficile de s'intégrer définitivement sur le marché du travail.
On est aussi dans un moment, Eric Heyer, qui est plutôt favorable sur le terrain de l'emploi. Les statistiques sont assez bonnes. Troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,4%. Ça fait un recul de 2,4% sur un an. Est-ce que c'est le bon moment, justement? Alors, c'est peut-être un peu le hasard, parce qu'entre le moment où on vote une réforme et le moment où elle est appliquée, il se passe un certain nombre de mois. Mais quitte à réformer l'assurance chômage, autant le faire à un moment donné où l'emploi redémarre, où le chômage diminue?
Oui, on peut dire cela. Effectivement, il vaut mieux faire des réformes d'austérité, entre guillemets, quand la conjoncture est bonne, parce qu'on sait que dès que la conjoncture se retourne, c'est surtout pas le moment de le faire. Au contraire, il faut faire un peu de relance et un peu de soutien au pouvoir d'achat de ces catégories-là. Donc, effectivement, si on devait choisir un moment, ça serait justement le moment de haute conjoncture. Attention, on est face à un ralentissement mondial. Pour l'instant, ça ne touche pas l'économie française. Rien ne dit que l'économie française ne va pas être impactée en 2021, enfin fin 2020, fin 2021, par ce ralentissement mondial et que la baisse du chômage que l'on a vue, effectivement, mais qui est dans le rétroviseur, s'arrête. Dans les projections de baisse du chômage, on voit que la baisse du chômage est plutôt derrière nous que devant nous.
Juste d'un mot, comment est-ce qu'on explique ce décalage entre la France et ses partenaires?
Oh, il y a deux raisons principales. D'abord, on est encore en phase de rattrapage, c'est-à-dire que nous on a encore un chômage de masse, c'est-à-dire qu'on n'est pas à pleine utilisation de capacité de production. Certains pays comme l'Allemagne sont déjà tournent à plein régime. Et puis c'est une crise qui est pour l'instant une crise industrielle et mondiale. Et nous on est un peu moins industriel et un peu moins ouvert sur le monde. Et donc du coup, on est moins pénalisé par ces deux freins à l'économie.
Et nous sommes en compagnie d'Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Rebonjour Eric Heyer.
Bonjour.
Et vous avez été rejoint par Alain Mestre. Bonjour.
Bonjour.
Consultant au cabinet Syndex, spécialisé dans l'expertise auprès des comités d'entreprise. Vous avez participé à une série d'études sur l'impact du changement climatique et de la transition énergétique sur l'emploi. Oui, car le changement climatique va avoir de nombreux effets sur l'emploi, effets directs. Comment travailler par exemple en extérieur lorsque des épisodes de canicule se répètent, et puis effet plus indirect pour atteindre l'objectif de réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins en 2030. quels sont les emplois qui vont être détruits, quels sont les emplois qui vont être traités. C'est de ces questions dont nous allons parler, de l'accompagnement, accompagnement social notamment, de ces mutations dont nous allons parler jusqu'à 9h-10 environ. Je voudrais commencer par une question alors très basique, Alain Maestre, mais est-ce qu'il y a, selon vous, des métiers aujourd'hui qui sont plus difficiles à exercer du fait du changement climatique? Je pense notamment au secteur du BTP qu'on évoquait il y a quelques minutes avec Eric Heyer.
C'était le message que j'essayais de faire passer à la Convention citoyenne pour le climat, dans un groupe de citoyens sur la thématique « Produire et travailler ». Où, alors l'objectif de cette convention, c'est un défi, c'est de réduire minimum de 40% les émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le même objectif au niveau européen. C'est peut-être insuffisant pour atteindre les fameux, pas dépasser les plus de degrés. C'est de dire, atteindre cet objectif, ça va créer, il y aura un solde net positif. De création.
Alors, attendez, si vous voulez bien, mais on va aller sur cette question du solde net, de savoir ce qui est détruit, ce qui est créé. Mais d'abord sur la question des conditions de travail. Moi, c'est là-dessus que je voudrais qu'on démarre. C'est-à-dire, est-ce que quand on est aujourd'hui dans le bâtiment, par exemple, et qu'on voit qu'il y a des épisodes de canicule qui se répètent, il y a aussi, par exemple, les inondations récentes dans le sud de la France, qu'on peut attribuer quand même au changement climatique, est-ce que ça, c'est suffisamment pris en compte, par exemple, dans le champ social aujourd'hui du travail français? Ma question.
Alors là, c'est la partie dite vulnérabilité, adaptation au changement climatique.
Et aujourd'hui, je parle de 2019.
Les impacts.
On est d'accord.
Alors concernant, d'ailleurs, nous, à Syndex, on est l'expert d'un projet en cours au niveau européen sur ces questions des conséquences sociales des politiques et des mesures volontaristes en termes d'adaptation au changement climatique. Et notamment, comme vous le soulevez, sur la problématique des santé, sécurité, conditions de travail, notamment de phénomènes climatiques comme la canicule. Alors, c'est vrai qu'on a découvert que en Europe, il y a pratiquement peu ou pas de régulation concernant le droit des travailleurs en matière de santé, sécurité et conditions de travail par rapport à l'effet canicule. En France, il y a eu un accord, mais dans une seule région, concernant le BTP, c'est dans le Limousin, où, au-delà du débat sur le droit de retrait, mais où il y a un ensemble de mesures qui ont été définies et mises en œuvre pour faire en sorte que, effectivement, que les droits des travailleurs soient préservés au niveau de leur intégrité physique par rapport au phénomène de canicule.
Mais prenons un exemple. Je suis un patron de BTP. Il y a un épisode de canicule, plusieurs journées, mettons, je ne sais pas moi, plus de 38 degrés ou plus de 40 degrés. Rien dans le droit du travail ne m'oblige à laisser mes employés au repos. Je peux les faire travailler.
D'ailleurs, il y a un rapport qui est intéressant à lire. C'est le rapport de l'INRS, l'Institut National de Recherche sur la Sécurité, qui définit très bien les enjeux. C'est qu'aujourd'hui, le Code du travail, responsabilise l'employeur par rapport, bien sûr, à la préservation de l'intégrité physique des salariés en cas de canicule. Mais rien n'autorise le salarié, y compris si... le CHSCT, enfin maintenant c'est la commission santé, sécurité et conditions de travail du nouveau comité social économique, l'autorise, eh bien non, aujourd'hui rien ne permet à ce que le salarié estime qu'il a un droit de retrait s'il fait 38-40 degrés au niveau de sa situation de travail.
Eric Heyer, j'évoquais tout à l'heure votre ouvrage que vous avez publié avec Pascal Lauquiec et Dominique Méda. Une autre voie est possible, le modèle social n'est pas mort. Est-ce que justement ce modèle social, est-ce que le droit du travail réfléchit au moins, si ce n'est s'adapte à ces questions que vient d'évoquer Alain Maestre?
Alors non, je suis pas sûr. Alors d'abord, je tiens à préciser que la partie juridique, c'était plutôt Pascal Dobieck qui le faisait, bien entendu. Mais non, effectivement, c'est le chantier ouvert. C'est-à-dire que il y a à la fois la révolution technologique qui va bouleverser l'emploi de demain. C'est-à-dire que globalement, on voit ce système de polarisation aujourd'hui du marché du travail. Hein. C'est un effet sablier pour si on veut se faire une image. C'est-à-dire que globalement, le progrès technique détruit des emplois un peu intermédiaires. Et donc, il y a aujourd'hui dans tous les grands pays développés uniquement des développements de création d'emplois, soit très peu qualifiés, soit extrêmement qualifiés. Et donc, on comprend bien que ce nouveau modèle, avec pourquoi pas la volonté d'ubérisation dans la société, il va falloir changer ce modèle social pour l'adapter à ces nouveautés. Et donc effectivement, le réchauffement climatique est une autre facette de cette révolution qu'il va falloir du coup prendre en compte dans le dialogue social et dans le modèle social. On est encore très loin d'être arrivé à un point d'équilibre, mais il va falloir effectivement y réfléchir.
À la Maistre.
Alors à tel point qu'en juin dernier, donc la Confédération européenne des syndicats, pour anticiper sur la nouvelle Commission européenne, a transmis à la nouvelle présidente de la Commission un projet de directive sur ces questions de droit des travailleurs par rapport à l'effet canicule. C'est dire que ce n'est pas qu'en France qu'on a un flou juridique pour, au-delà des aspects de droit, mais aussi de mettre en place des politiques et des mesures de prévention appropriées, efficaces. Parce que bon, dans le BTP, on a eu quand même de sources syndicales, cette année encore 8 à 10 morts. Dans le secteur, rien que dans le secteur du BTP, impacté par l'effet canicule. Mais c'est partout en Europe, donc c'est pour ça que la Confédération européenne des syndicats a donc transmis un texte, un projet de directive, parce que même dans les pays européens les plus avancés en termes de régulation sociale, il y a aujourd'hui pratiquement pas de mesures efficace pour sauvegarder l'intégrité physique des travailleurs.
Alors, il y a donc l'impact de ces changements climatiques sur les conditions de travail, et puis il y a l'impact sur la nature du travail. Quels sont les emplois qui seront les nôtres dans quelques années, et peut-être que ça commence d'ailleurs dès aujourd'hui. Alors, si on va sur le site du ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, on a presque envie de dire, youpi, le réchauffement climatique, ça va créer de l'emploi. Bénéfice net en emploi, c'est ce que dit le ministère, qui se base sur des chiffres de l'ADEME. Malgré une baisse dans les secteurs dépendants des énergies fossiles, ça va évidemment baisser, mais le bénéfice sera net. Plus 340 000 emplois d'ici 2035, plus 900 000 emplois d'ici 2050. Est-ce que ça, ce sont des prévisions, vous qui vous occupez de prévisions à l'OFCE, Eric Heyer, qui vous paraissent particulièrement optimistes?
Non, alors, c'est des simulations, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est vraiment un scénario, et derrière ce scénario, il y a aussi de la dépense publique. C'est-à-dire que c'est associé tout de même à de l'investissement, et cet investissement, puisqu'il est il est non délocalisable, puisqu'on va le faire en France, ça va créer de l'emploi effectivement dans les pays. Vous voyez, quand vous faites de la rénovation thermique, bah oui, effectivement, vous allez créer de l'emploi en France, et c'est ça effectivement, c'est pas ouvert à la concurrence, ça va pas partir. Donc toutes ces simulations, tous ces scénarios en fait, derrière, il faut bien voir quel est l'enjeu budgétaire qu'il y a derrière. Et à mon avis, le fait de est-ce qu'ils sont crédibles ou pas, on doit se poser la question, est-ce qu'on est d'accord pour mettre un certain nombre d'investissements publics sur la table. Et donc, c'est plutôt l'enjeu budgétaire qui est questionné. Et bien entendu, avec si ces enjeux budgétaires sont finalement, si on se dit que la dette, c'est plus un problème et que le problème de la soutenabilité à long terme, c'est plutôt l'environnement et pas la dette publique, et donc que ces scénarios de l'ADEME sont plutôt réalistes, alors, ben oui, il n'y a aucun problème pour que, effectivement, cette transition énergétique soit aussi créatrice d'emplois et d'emplois qui sont non délocalisables, donc des emplois qui seront sur l'Hexagone.
Il faut d'ailleurs comprendre quelle est la logique de ces scénarios, Alain. C'est-à-dire, on part d'un objectif qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à telle échéance, donc moins 40% d'ici 2030. 30 par rapport à 1990, me semble-t-il. Ça suppose donc de mettre en place une politique, notamment une politique de reconversion. Et si cette politique est mise en œuvre, ça se traduirait par un solde net en matière d'emploi. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et est-ce que, par rapport aux travaux que vous avez menés, vous partagez ces scénarios assez optimistes du ministère de la
transition? Non, on ne les partage pas, mais...
Pourquoi ?
Il y a de nombreuses études, en fait, au niveau européen et international, qui sont contradictoires. Sur, en gros, à la fois l'évaluation quantitative et qualitative des emplois des compétences, générée, comme vous le dites, c'est le scénario sur lequel travaille actuellement la Convention citoyenne pour le climat, c'est de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On a fait, nous, plusieurs études au niveau européen, déjà en 2006-2007, avec les partenaires sociaux européens en 2011. Et je peux vous dire, on a étudié tous les modèles d'impact emploi. Ça dépend des hypothèses. Ça dépend, comme dit M. Meyer, aussi des politiques, des programmes d'investissement publics, privés, en termes sur les nouveaux produits marchés, les process, etc., par rapport notamment au secteur à haute intensité carbone. Mais moi, je prendrais simplement, et d'ailleurs c'est l'étude que j'avais présentée à la Convention citoyenne, celle de l'Organisation internationale du travail de juin dernier, qui a été présentée au Forum mondial de la transition juste. Donc ils ont pris un ensemble d'études, enfin, et donc ils ont créé une sorte de synthèse à l'horizon 2030, sur un objectif non pas de 40 mais de 50%, parce qu'ils ont pris un modèle de plus de degrés par rapport à plus 6, où là il n'y aurait plus de vie sur Terre, et en prenant les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, ils arrivent à la conclusion que oui, on créera beaucoup plus d'emplois qu'on en détruira, mais attention. Sur la partie dite énergie durable et sur la partie économie circulaire, c'est des dizaines de millions d'emplois. Alors ils ont pris un échantillon dont la France, hein, de 32 pays, et on arrive en gros à un solde très positif, sauf que sur presque 20 millions d'emplois qui seront détruits, bien sûr tout en ayant un solde net positif, ils disent que 30% de ces emplois ne seront pas reconvertibles. Pour à la fois des raisons aussi de problèmes de compétences, mais pas seulement, on peut avoir de la haute compétence, mais si on est dans des métiers fragiles, dans des métiers à risque, dans des métiers entre guillemets perdants, par rapport à ces nouveaux modèles dits bas carbone, voire à neutralité carbone, eh bien oui, donc ces métiers, y compris de haute qualification, risquent de disparaître.
Alors vous évoquez ce rapport de l'OIT, Office International du Travail, qui est une division des Nations Unies, avec donc cette approche un peu moins peut-être positive que ce qu'on a pu évoquer jusque-là. Comment est-ce que vous expliquez, Alain Metz, que le discours création d'emplois soit beaucoup plus audible, en tout cas beaucoup plus médiatisé peut-être que le discours destruction? C'est pour ne pas inquiéter, mais est-ce qu'en ne voulant pas inquiéter, on ne rate pas aussi le coche d'un certain nombre de reconversions professionnelles?
Bien sûr, c'est à la fois pour ne pas inquiéter, mais ça c'est logique, mais aussi comme ça a été débattu d'ailleurs la Convention citoyenne, c'est pour le climat, qui est quel facteur de blocage? Et effectivement, il y aura, si on ne met pas en place les politiques et les mesures appropriées en matière dite de transition juste, telle qu'elle est définie par l'OIT, ces 9 lignes directrices de la transition juste, eh bien, on risque d'avoir à faire face à des risques de tensions sociales fortes, plus ou moins fortes, selon les métiers qui seront impactés. Négativement par ces politiques, ces mesures volontaristes.
Lesquels d'ailleurs métiers
en... Alors en gros, c'est tous les métiers qui sont dans les secteurs, les filières à haute intensité carbone. Alors bien sûr, les filières qui à la fois produisent, mais aussi des énergies fossiles. On le voit en France, par exemple, les 4 centrales charbon qui sont prévues de fermer, mais il y a actuellement des conflits sociaux. Hein, à la fois à Gardanne, Saint-Avold, ils sont dans des graves conflits sociaux.
Voilà, il y a une grève la semaine dernière à Saint-Avold.
Alors ça, c'est la filière fossile, sans qu'on ait les raffineries. Et puis aussi, tous les secteurs à haute intensité carbone, c'est-à-dire tous ces secteurs industriels, tout particulièrement, à haute intensité carbone, que ce sont l'acier, papier, la chimie, le verre, la pâte à papier, la céramique, etc. Donc ces secteurs qui sont à haute intensité carbone. Et là, effectivement, tous ces métiers sont à risque. Alors après, il y a tout le débat sur mettre en place des filières technologiques, produits process à faible carbone, voire à neutralité carbone, qui permettraient de limiter ces risques, sans compter, bien sûr, mettre en place des dispositifs et des outils de gestion prévisionnelle, des emplois, des compétences, qui croiseraient les niveaux des entreprises, les secteurs et les territoires.
Éric Heyer, ces mutations auxquelles est confronté le monde du travail à travers cette question de la transition énergétique en particulier, est-ce que c'est quelque chose de relativement inédit dans son ampleur, ou bien est-ce que régulièrement, quand il y a des révolutions industrielles, je rappellerai le titre d'un essai fameux de Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle, parce que voilà, c'est sur des choses qui se répètent, qui reviennent régulièrement.
Oui, c'est un peu la destruction créatrice de Schumpeter. C'est-à-dire que globalement, il y a effectivement des innovations tout au long de l'histoire du capitalisme qui, en fait, commencent par détruire un certain nombre d'emplois, mais qui, au final, en créent plus qu'il en a détruit. Et donc, il y a ces mouvements-là. Et donc, on peut considérer que cette transition écologique fait partie un peu de cette destruction créatrice, ça a été dit. C'est-à-dire que globalement, il va y avoir des destructions d'emplois, mais les créations nettes devraient être supérieures. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on devrait en créer un peu plus qu'on en a détruit. Et donc, se pose vraiment la question de la transition. Dans ces compétences-là. Et donc ça, normalement, ça se réfléchit, ça s'anticipe, puisque là, on est tout de même sur un temps long. Et donc, pour faire un peu un lien avec la première partie de l'interview sur l'assurance chômage a un rôle très important dans ce moment-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans un métier qui, on sait, n'est pas un métier d'avenir, vous allez quelque part, à un moment, disparaître dans ce type de métier, ben c'est à ce moment-là où l'assurance chômage est primordiale. Et il faut justement avoir une durée au chômage relativement longue, parce que vous apprenez pas un métier en l'espace de 6 mois, en 9 mois. Il va falloir vous reconvertir. Et donc, il faut non seulement du temps, mais il faut aussi pouvoir vivre pendant ce temps-là. C'est-à-dire que si on vous dit t'as du temps, mais avec une indemnité qui est extrêmement faible, vous allez plutôt essayer de trouver ailleurs. Donc il faut du temps, il faut être bien indemnisé. Et donc, vous voyez, c'est exactement tout l'inverse de là où on va aujourd'hui, en essayant de réduire le temps et réduire l'indemnisation. Donc non, il va falloir faire peut-être un peu plus du sur-mesure, c'est-à-dire que globalement, ça va être très important pour la personne de Pôle emploi. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant aussi les former un peu mieux. Il y en aura, il y a 1000 CDD supplémentaires, mais il va falloir qu'ils soient bien formés pour essayer de savoir qui ils ont face d'eux. Est-ce que c'est des personnes qui arrivent d'un métier qui n'est pas écologique compatible, et donc du coup il va falloir les reformer, et là il va falloir du temps.
Sauf que on entend beaucoup dire qu'il y a de très nombreux métiers qui sont liés à cette transition qui n'existe sans doute pas encore. Comment est-ce qu'on fait, Alain Maistre, pour préparer à des métiers dont on ne connaît pas encore la nature exacte?
Il faut déjà mettre en place, déjà en amont, ce qu'on appelle, bon, en France, les contrats d'études prospectives emploi, à l'horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour effectivement anticiper sur les nouveaux métiers qui vont être générés par ces politiques et mesures volontaristes, qui va exiger bien sûr des investissements massifs, pas seulement au niveau recherche-développement, technologie, mais aussi bien entendu en termes d'outils et de dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, à la fois au niveau de l'entreprise, au niveau de secteur, voire même au niveau des filières, et qui sachent croiser, et c'est pour ça qu'il faut des outils innovants et ambitieux, aussi croiser avec les territoires. C'est tout l'enjeu, nous, d'un outil qui a été référencé par l'OIT et le Centre européen de la formation professionnelle, qui est ESECLI.
Alors ESECLI, ça veut dire évolution, compétences, emploi, climat.
Tout à fait. Qui, nul n'est prophète en son pays, donc il est plus connu au niveau européen et international qu'en France. Mais ce qui est, on l'a fait en Île-de-France, donc en 2014. C'est un outil donc de prospective emploi, avec justement l'objectif était, en gros, c'était effectivement 40% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On est déjà là dans cet objectif-là. Mais quel impact à la fois quantitatif et qualitatif? Donc l'évaluation a été faite de manière partagée avec partenaires sociaux, représentants de l'État, de la région et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc on est dans un diagnostic partagé et ensuite qui a débouché sur, avec des travaux en atelier, séminaires, etc., sur des propositions concrètes en termes d'outils dits passerelles. Les outils passerelles métiers, c'est-à-dire concrètement.
C'est-à-dire quels on passe les, un métier à un autre.
Voilà. Quels sont, on a travaillé sur 105 exactement de métiers à risque et puis sur 35 métiers d'opportunité. Qui peuvent être certains, soit un verdissement des métiers existants, soit des tout à fait nouveaux métiers, par exemple technicien de paysager, en passant par les des ambassadeurs du tri, etc. Et donc l'objectif c'était d'évaluer les compétences à la fois techniques transférables, mais aussi les compétences transversales. Qui, a priori, et c'était pas du tout prévu, pourrait permettre à un métier d'être reconverti dans ces filières sur un territoire qui soit d'opportunité en phase avec cet objectif de réduction de gaz à effet de serre.
Est-ce que vous avez en tête un métier qui serait facilement transférable d'aujourd'hui à demain, disons, enfin d'un métier actuel à un métier de demain qui ne nécessite pas forcément justement de changer radicalement son approche professionnelle?
Oui, il y a eu on a eu quelques surprises agréables de, par exemple, certains métiers, par exemple dans le secteur éducatif ou tout simplement des éducateurs ou tout simplement aussi des gens qui sont dans des personnes qui sont dans les secteurs de garde d'enfants par exemple, c'est assez étonnant. Eh bien on a trouvé que il y a des compétences qui peuvent être transférables vers ces métiers. Alors ça peut pas être ambassadeur de tri ou être dans la filière du recyclage.
C'est peut-être plus compliqué pour les métiers plus qualifiés.
Voilà, parce que ces personnes, elles ont le sens de la communication, elles ont le sens aussi des relations publiques. Et donc, de travailler dans les collectivités pour développer ces filières, par exemple, concernant par exemple les filières de recyclage, mais aussi dans tout ce qui est valorisation énergétique de déchets, ben voilà, on a découvert qu'il y avait, et là, en l'occurrence, il y a énormément d'emplois à créer. Eh bien, on a découvert qu'il y a des métiers dont les compétences peuvent être transférables.
Éric, hier, Alain Maistre évoquait à plusieurs reprises la Convention citoyenne pour le climat et ce groupe de travail Travailler et produire, auquel j'ai assisté aussi, c'est comme ça que je vous ai repéré, Alain Maistre. Et dans la discussion, il y avait aussi l'idée qu'il y avait peut-être la nécessité de relocaliser un certain nombre d'industries, alors qu'ils ne sont pas des industries carbonées, mais qui seraient des industries qui permettraient d'aller vers cette transition énergétique. Ça suppose d'avoir une politique industrielle. Est-ce que la France aujourd'hui a une politique industrielle digne de ce nom?
Alors, je pense qu'il faudrait se poser la question au niveau européen. C'est-à-dire que la politique industrielle doit être...
Oh là, c'est encore plus compliqué, non?
Alors, c'est plus compliqué, mais on voit bien que c'est ça la taille critique. C'est-à-dire que globalement... on voit tout de même... Dans la chaîne de production de valeur, c'était un peu mondialisé. C'est-à-dire qu'effectivement, on produisait un produit, il y a des composantes qui viennent un peu de partout. On voit tout de même un début de commencement de régionalisation de cette chaîne de valeur. Donc, ce que vous êtes en train d'indiquer, on le voit déjà un peu apparaître. Et donc, sans vraiment changement de politique industrielle, mais uniquement parce qu'effectivement, on s'aperçoit, et les chaînes d'entreprises aussi, on voit bien qu'il faut quand même maintenant produire beaucoup plus proche du consommateur. Et donc, on voit cette régionalisation tout de même apparaître et sans doute aussi un élément climatique.
Mais est-ce que ça ne demande pas une approche un peu plus volontariste?
Oui, je pense que vous avez complètement raison. Et donc il va falloir au niveau français, mais je pense au niveau européen, c'est la bonne échelle. Et donc l'enjeu, me semble-t-il, de cette nouvelle commission européenne qui est en train de se mettre en place, c'est de réfléchir effectivement aussi à une politique industrielle. Et donc il me semble que la transition écologique est sans doute la bonne façon d'entrer dans cette nouvelle politique industrielle. Donc il y a le numérique et l'écologie, et donc oui, il va falloir du volontarisme. Donc ça veut dire que, mais on voit bien que les lignes bougent d'un point de vue, parce que qui dit volontarisme dit un peu aussi marge de manœuvre budgétaire, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, alors ça avait commencé avec le plan Juncker déjà en Europe en disant il va bien falloir qu'on fasse des gros plans d'investissement au niveau européen. Donc il y a quand même ce début d'inflexion dans le raisonnement en disant voilà, allons un peu plus dans une réflexion commune en Europe et donc d'une politique industrielle commune.
Prenons un exemple en Europe, Alain Maistre, en Pologne, les chantiers navals de Gdansk. Chantier naval de Gdansk, au lieu de la contestation politique à l'époque de Lech Wałęsa et du syndicat Solidarność, des chantiers navals qui ont été en crise et qui ont entamé une reconversion.
Oui, alors une reconversion un peu contrastée, mais c'est intéressant tout à fait. Nous, on avait fait une étude au niveau européen, où ça date 2010-2011, au moment justement où les chantiers navals de Gdansk, ainsi d'ailleurs qu'au Danemark, les chantiers navals de Lindø, qui ont été totalement reconvertis dans les énergies marines et éoliennes offshore, eh bien, une partie des chantiers navals de Gdansk, une partie a été reconvertie sur les fameuses plateformes offshore pétrolières, mais là, c'est à haute intensité carbone. En revanche, ils ont développé une activité qui a concerné à peu près presque un millier de personnes, qu'ils ont su reconvertir donc dans la production d'éoliennes, aussi bien terrestre qu'offshore. Alors c'était dans le cadre d'une reprise d'une partie des chantiers navals par une entreprise ukrainienne qui s'appelle Donbass, qui est pourtant le numéro 7 ou 8 mondial de la sidérurgie, et qui s'est diversifié, sachant qu'effectivement il avait anticipé sur une forte demande au niveau européen sur cette filière éolienne. Et donc, et c'est intéressant parce qu'il a tout de suite identifié que des ouvriers, des techniciens jusqu'aux ingénieurs d'un chantier naval, eh bien, avaient des compétences techniques et transversales tout à fait appropriées pour se lancer dans la production d'éoliennes. Et donc c'est quand même... alors le projet a été moins ambitieux qu'au Danemark, parce que alors le Danemark c'était 2500 personnes, ils sont totalement reconvertis avec des outils innovants, éducation, formation, donc y compris que reconvertir par exemple un soudeur dans un chantier naval vers de la soudure très spécialisée pour les éoliennes ou les énergies marines, c'est pas évident, hein. Ça demande à peu près 6 mois de formation minimum. Eh bien, là, c'est des exemples très précis où il faut vraiment prendre en compte qu'il faut aussi innover au niveau des dispositifs et des outils de reconversion, et notamment concernant la formation.
Toute rapide question pour terminer. Imaginons, vous êtes adolescent, vous êtes au lycée, vous devez choisir un métier d'avenir. Ne souriez pas trop, Eric Ayard, parce que la question, je vais aussi vous la poser à vous, Alain Maistre. Ça serait quoi?
Ah bah surtout aller faire ces filières dites entre guillemets gagnantes ou d'opportunités, parce que quand même une aussi de conclusion de l'étude OIT, c'est aussi, et du Centre européen d'information professionnelle, c'est que globalement les fonctions, les métiers seront beaucoup plus qualifiés, hein, qu'actuellement. Mais surtout, oui, se destiner, surtout ne pas aller vers les secteurs dits à risque et perdants, mais d'aller vers les secteurs et les nouveaux métiers ou les métiers en évolution requalifiante vers ces activités dites d'opportunités et gagnantes.
Vous restez économiste, Eric Ayard?
Bien sûr, économiste, on n'est pas obligé d'être délocalisé. Non, mais on voit bien que tous les services à la personne, en fait, tous ces métiers-là de services à la personne, ça sera des métiers aujourd'hui, enfin, en tout cas de demain, qui seront un peu en tension. Et donc, si vous voulez à tout prix travailler et travailler avec des relations humaines, je pense que c'est complètement approprié.